France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, Marine Le Pen, enfin au contact ce matin dans le Vaucluse. Elle qui veut interdire le voile dans l'espace public, interpellée à plusieurs reprises à Pertuis par des femmes voilées, inquiète sur son rapport aux immigrés.
Tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quel que soit quoi que ce soit, tous les Français, je me bats pour eux.
La candidate cherche à prendre la tête d'un front anti-Macron. Il gouverne pour quelques-uns, dit-elle. Le rapport à l'argent sur ce thème, le président sortant dénonce la rémunération envisagée pour le patron de Stellantis, près de 20 millions d'euros.
C'est choquant, c'est excessif. On doit pouvoir mettre un plafond. Et donc, ce qu'il faut qu'on puisse faire, c'est qu'on convainque nos partenaires européens de porter une réforme qui permette d'encadrer à un moment donné la rémunération de nos dirigeants.
Deux promesses d'Emmanuel Macron ce matin, individualiser l'allocation adulte handicapé et un fichier administratif des délinquants sexuels. Sujet de campagne, le pouvoir d'achat, inflation à 4,5% sur un an. Mécaniquement, le SMIC va augmenter au-dessus des 1300 euros net en mai. L'Ukraine et le navire amiral russe en mer Noire, coulé, incendie ou missile. En tout cas, au même moment, Moscou dit vouloir à nouveau s'en prendre à la ville de Kiev. Avant cela, dans un instant, nous irons à Jérusalem. Les affrontements les plus graves depuis un an sur l'esplanade des mosquées. 150 blessés ce vendredi et jour de prière en plein ramadan. Vos rendez-vous dans le 13-14 à 13h30. Une grande respiration. Machu Picchu et les trésors du Pérou. Magnifique exposition à partir de demain à Paris. Nous serons avec l'une de ses commissaires. Vos questions sur les Incas, le Machu Picchu, peut-être y êtes-vous allé. Appelez-nous 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Et dans C'est une chanson, Daniel Pénac choisit Bobby Lapointe. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est un autre front qui se réveille depuis le mois de mars. 4 attaques en moins de 3 semaines en Israël, 14 morts israéliens, 22 palestiniens tués. Et ce matin, sur la très sensible esplanade des mosquées, le mont du Temple pour les Juifs, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Ils ont fait plus de 150 blessés. Ajoutons que ce vendredi est très particulier. C'est à la fois le début de Pessah, la Pâque juive, le vendredi saint pour les chrétiens et jour de prière en plein ramadan pour les musulmans. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes Frédéric Porte de Damas, à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem, tout près de l'esplanade des mosquées. La prière du vendredi est en train de se terminer.
La prière est terminée et pour l'instant, Bruno, la sortie des dizaines de milliers de pèlerins se fait dans le calme, sous haute surveillance de la police israélienne. 3000 policiers déployés ici et d'un hélicoptère. Pour le moment, ces pèlerins sortent tranquillement. Nous voyons des secouristes qui sont prêts à parer à tout incident. Mais pour le moment, la sortie se passe bien. L'ambiance est très différente à ce stade de ce qui s'est passé ce matin au petit jour.
Oui, parce que les incidents de ce matin, Frédéric, sont les plus graves dans la ville depuis un an.
Oui, des violences sur l'esplanade des mosquées et dans la mosquée Al-Aqsa. On avait vu des scènes similaires il y a un an, le 10 mai dernier, des violences dans le troisième lieu le plus saint de l'islam. Le soir même, le Hamas tirait des roquettes sur Jérusalem et c'était le début d'une guerre de 11 jours. Pour le moment, il est toujours difficile de prédire la suite des événements. On va donc surveiller ce qui se passe dans les deux heures à venir ici à Jérusalem, à la sortie d'Al-Aqsa, mais aussi dans les territoires, car dans les territoires, depuis des semaines et des semaines, il y a des affrontements un petit peu partout. Et puis Bruno, on va surveiller la réaction du Hamas à Gaza. Va-t-il passer à l'action? Va-t-il, comme il y a un an, tirer des roquettes? Ou au contraire, va-t-il rester sur sa ligne de retenue? Une chose est certaine, Jérusalem est redevenue un point hypersensible en ce vendredi.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem, ce jour qui est aussi vendredi saint pour les chrétiens. Je vous le disais, à Rome ce soir, le pape dirigera le chemin de croix, ce qu'il n'avait pas pu faire ces deux dernières années à cause du Covid. En Ukraine, l'armée russe va-t-elle à nouveau s'en prendre à la ville de Kiev? Le fait de guerre majeur de ces dernières heures concerne le croiseur Moskva. Le vaisseau amiral russe en mer Noire a coulé. C'est un de nos missiles, dit l'Ukraine. Incendie, répond Moscou. Mais ce que les Russes présentent donc comme un accident semble appeler une réponse très ferme. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
En direct de Moscou pour France Inter, la Russie menace de frapper des centres de décision à Kiev, dont elle a pourtant quitté la région, et elle annonce avoir procédé à des bombardements ce matin.
Effectivement, il semble cette nuit que les tirs de missiles de croisière et les raids aériens se soient intensifiés sur certaines zones de l'Ukraine après une certaine accalmie hein, dans la foulée du retrait des troupes au sol de la région de Kiev notamment. Et la question est effectivement, ces frappes sont-elles des représailles au naufrage du Moskva et à la perte d'un croiseur majeur pour la marine russe? La réponse, c'est officiellement non, puisque pour l'armée russe, ce naufrage est un accident. Néanmoins, dès hier soir, Moscou menaçait de frapper des centres de décisions telles que l'état-major de l'armée à Kiev en réponse à, dit Moscou, des bombardements ukrainiens sur des villages russes à la frontière. Des bombardements démentis par Kiev, invérifiables en l'état, mais qui sont avérés pour le Kremlin et justifient la reprise des frappes sur la capitale ukrainienne comme la nuit dernière. Moscou, dont l'objectif prioritaire est malgré tout désormais le Donbass, où l'armée russe entend consolider, voire accroître ses gains territoriaux, l'est de l'Ukraine où tout le monde attend une offensive d'envergure dans les jours qui viennent et un regain d'activité militaire.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Arrêtons-nous sur le naufrage de ce navire. Le Moskva, croiseur lance-missile, 186 mètres de longueur. Bonjour Pierre Servant.
Bonjour Bruno Duvic.
Expert des questions de défense, auteur de ce livre aux éditions Robert Laffont, 50 nuances de guerre. D'abord, ça faisait combien de temps qu'un navire de cette importance n'avait pas coulé ?
Écoutez, à mon avis, il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale, oui. Ou alors plus proche de nous, un bâtiment très différent, mais c'est ce qui s'est passé en 2000 avec le Kursk, oui. Qui était un sous-marin nucléaire d'attaque, alors nucléaire pour la propulsion, oui. Mais qui avait coulé à la suite, alors pas d'une attaque adverse ou ennemie, mais à la suite de l'explosion d'une torpille de ce bâtiment. Et déjà à l'époque, les Russes avaient beaucoup menti avant de reconnaître ce qui s'était passé.
Alors à propos de mensonges, est-ce que la thèse de l'incendie sur le Moskva est crédible de votre point de vue?
Alors, oui et non. Non, parce que je penche plutôt pour la thèse d'une frappe par missile ou par un autre moyen. Ça serait quand même absolument incroyable et extraordinaire que ce soit un accident qui fasse couler le bateau amiral. Le oui, il est documenté par des amiraux que j'ai interrogés ce matin. Les Russes sont connus pour avoir, du côté des carburants, si vous voulez, qui sont utilisés pour la propulsion des missiles, assez peu de précautions. Ils ont notamment des carburants liquides qui sont assez instables. C'est notamment ça qui avait provoqué l'accident sur le Kursk. Et donc, c'est pas complètement absurde. Mais encore une fois, compte tenu de la configuration de ce qui s'est passé et de ce qui ressemble à des représailles sur Kiev, je penche pour une frappe, une opération ukrainienne.
Et si c'est le cas, ce serait un missile ukrainien ou un missile qui aurait pu être fourni par l'étranger à l'Ukraine ?
Alors, je ne sais pas, et si je savais, je ne répondrais pas à votre question, dans le sens où il vaut mieux rester dans le vague le plus absolu. Les Russes, dans les semaines passées, enfin, il y a déjà plusieurs semaines, avaient accusé les Américains d'avoir guidé par un drone américain une frappe sur un bâtiment russe. Tout ça n'est pas clairement documenté. Les Russes ont abandonné par la suite cette thèse. Donc, je ne sais pas comment ces choses se sont passées, mais je penche pour effectivement la capacité des Ukrainiens à le faire. J'avais évoqué hier une possibilité d'opération plutôt de nageurs de combat ukrainiens. Là, ça demanderait à ce que le bâtiment Moskva soit assez proche des côtes, et j'ignore sa position, donc ça n'est qu'une hypothèse. Mais en tout cas, je pense clairement que c'est une opération ukrainienne qui fait écho à celle qui a coulé ce bâtiment dans le port de Berdiansk, en mer d'Azov, qui était un bâtiment aussi important, pas un croiseur, un bâtiment de transport de troupes. Donc les Ukrainiens marque des points, même si ça n'affaiblit pas la flotte de guerre en mer Noire.
Pour mesurer la perte pour l'armée russe, quel est le rôle de ce navire ?
Alors, navire amiral, ça veut dire que l'amiral qui commande l'ensemble de la flotte de guerre en mer Noire, flotte de guerre importante puisqu'elle était censée partir à l'assaut de la mer vers la terre sur Odessa, c'est là où se trouve l'amiral donc qui commande l'ensemble des bâtiments, une trentaine de bâtiments sans doute en mer Noire et certains en mer d'Azov. Et ça veut dire que l'amiral sur le bâtiment, il met ce qu'on appelle sa marque, c'est-à-dire que tout le monde sait que le chef est à bord de ce bâtiment. Pour autant, le bâtiment étant coulé, ça n'empêche pas du tout l'amiral d'aller mettre sa marque sur un autre bâtiment d'un tonnage moins important, puisqu'en fait, le Moskva n'a que deux équivalents qui se trouvent en mer Méditerranée. Oui. Et vous savez que les Turcs ont fermé les détroits. Donc ces deux bâtiments ne pourront pas remonter sur la mer Noire. Donc l'amiral commandant la flotte va devoir se contenter, entre guillemets, d'un bâtiment de plus faible tonnage. Mais ça ne va pas du tout l'empêcher de commander ces bâtiments à la mer.
C'est bien noté. Merci beaucoup Pierre Servant d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'ajoute cette information qui nous est parvenue en fin de matinée. 7 civils tués, 27 blessés dans des tirs russes sur des bus d'évacuation dans la région de Kharkiv. C'est une information de source ukrainienne, parquet général ukrainienne, pas de confirmation de source indépendante. En Chine, l'épidémie de Covid à Shanghai et la politique de restriction très stricte du régime tournent chaque jour un peu plus au calvaire pour les habitants et dans un autre ordre pour le pouvoir à Pékin. On assistait hier à des scènes très rares d'affrontements entre policiers et habitants de la ville en furie. On voulait les obliger à céder leur logement pour y placer des personnes positives. France Inter à Pékin, Sébastien Berriot.
La tension est très forte devant l'entrée de cette résidence de Pudong dans la partie nord de Shanghai. Sur les nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des habitants affronter les forces de l'ordre. Les policiers sont venus exécuter une décision des autorités qui prévoit de transformer 9 bâtiments de la résidence en centre de quarantaine pour personnes positives. Les locataires sont donc sommés de quitter leurs appartements pour rejoindre d'autres logements qui leur ont été attribués. Mais certains refusent et tentent de s'opposer physiquement à la construction d'une clôture de quarantaine entre les bâtiments. Les images montrent des femmes à genoux supplier les policiers, mais les résidents sont finalement emmenés un à un par les forces de l'ordre. Tout cela est la conséquence directe de la stratégie zéro Covid qui prévoit d'isoler chaque personne testée positive dans un centre de quarantaine. Mais avec plus de 20 000 nouveaux cas enregistrés chaque jour à Shanghai, ces centres sont saturés et il faut donc trouver de la place coûte que coûte, quitte donc à expulser des locataires de leur logement. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
En France, les contaminations au trait transmissible variant BA2 reflue, 137 000 cas tout de même hier, mais c'est 21 000 de moins qu'il y a une semaine. Baisse des contaminations Covid à l'école également. Seulement 0,26% des classes françaises sont fermées à cause de l'épidémie, selon le ministère de l'Éducation. Le second tour de la présidentielle, c'est dans 9 jours maintenant. Et le climat se tend entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le président candidat a placé son adversaire en dehors du champ républicain ce matin sur France Info, sur le thème « Gare à l'extrême droite ». Quant à la candidate, elle cherche à faire prospérer le front anti-Macron ce matin chez nos confrères de France Bleu Provence, par exemple.
Je considère que aujourd'hui le gouvernement mené par Emmanuel Macron est un gouvernement au bénéfice seulement de quelques-uns, qu'il y a de grands déséquilibres territoriaux, il y a des Français qui ont accès à des services publics, il y a des Français qui n'ont plus accès à des services publics, il y a des déserts médicaux partout, il y a des mesures fiscales qui sont faites pour les plus aisés et qui sont faites contre les moins aisés. Tout cela, si vous voulez, ce sentiment d'injustice que je ressens et qui est vraiment prégnant dans le pays, il faut y mettre fin. Je veux une France unie, je veux une France fraternelle, je veux une France qui s'attache aussi, encore une fois, à être aux côtés des plus vulnérables.
Emmanuel, Marine Le Pen sur France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse, ce matin à Avignon, hier soir en meeting, ce matin à nouveau pour elle, à nouveau le Vaucluse, le département qui a voté 29% Le Pen dimanche dernier. Elle était à Pertuis et c'est là qu'on retrouve Élodie Forêt, la candidate au contact réellement de la foule. C'est une première dans cet entre-deux-tours. Et comme Emmanuel Macron, ça n'a pas été de tourpeau, les huées de militants qui lui étaient hostiles. Et puis Élodie, Marine Le Pen interpellée à plusieurs reprises.
Oui, un marché chahuté comme on aura rarement vu dans cette campagne, Bruno. Sous les insultes d'une trentaine de personnes, Marine Facho, Marine Casse-toi, la candidate traverse les allées et contre la rediabolisation s'emploie à rassurer cette femme d'origine algérienne d'abord.
Nous sommes d'origine algérienne, mais nous sommes français.
Écoutez-moi,
c'est pas sur le papier, c'est qu'on aime ce pays, on l'aime.
Écoutez-moi, je vous rassure,
tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quel que soit quoi que ce soit, tous les Français,
je me bats pour eux.
Puis quelques mètres plus loin, cette femme lesbienne.
Moi, je suis mariée à une femme.
Oui.
Est-ce que vous comptez changer quelque chose ou pas ?
Non, je l'ai dit hier soir dans mon meeting, je ne retirerai aucun droit aux Français.
T'as entendu ça ? Eh ben c'est bon, on peut y aller, merci.
Objectif dédiabolisation donc face à un système qui se contracte, ironise la candidate.
Ça me confirme dans l'idée que je peux gagner cette élection présidentielle, car la brutalité qui est exprimée à mon égard Et proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection.
Marine Le Pen qui ce matin, sous les injures, semble bel et bien décidée à repartir au combat.
Élodie Forêt à Pertuis pour France Inter avec Marc Garvenès. Emmanuel Macron lui était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. La réforme des retraites qu'il envisage suscite la controverse. Reculer progressivement l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans. Question de Marc Fauvel et Salia Brakia. Est-ce que cela décalera l'âge auquel on peut partir à une retraite à taux plein, 67 ans? Réponse.
62 ans, c'est l'âge légal. Vous avez à côté de ça un nombre de trimestres. On a beaucoup de gens qui vont travailler au-delà de 62 ans. C'est pour ça que pour les salariés du privé, l'âge médian de départ, il est de 63 ans et demi. Et en effet, en particulier pour beaucoup de femmes qui ont des carrières fracturées, ils vont travailler jusqu'à 67 ans parce qu'ils n'auront pas tous leurs trimestres et ils ne les auront jamais. Mais il n'y a plus de décote à 67 ans. Cet âge ne bougera pas.
Voilà pour cette précision au cours de cette interview. Également une promesse dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La création d'un fichier administratif des délinquants sexuels. Il serait inscrit les personnes qui ont fait l'objet de dépôts de plainte ou qui ont un casier lié à des violences intra-conjugales. Fichier en plus de celui de la justice où figurent les personnes condamnées. Et puis le président candidat change de position sur une question très importante pour beaucoup de Français, l'allocation adulte handicapé. Aujourd'hui, elle est conjugalisée, c'est-à-dire que si votre conjoint gagne correctement sa vie, plus de 2000 euros, vous ne la touchez pas, ce qui ajoute à la dépendance personnelle vis-à-vis des proches une dépendance financière. L'individualisation de cette allocation, c'est une demande de longue date de beaucoup de personnes en situation de handicap. Le président s'est opposé à un changement au fil du quinquennat. À l'approche de l'élection, il reconnaît qu'il faudra bouger, Hélène Chevalier.
Oui, une annonce en réaction à une question, ou plutôt au dilemme d'une jeune femme en situation de handicap ce matin chez nos confrères de France Info. Est-ce qu'elle doit choisir l'amour et se marier avec son compagnon ou conserver son indépendance financière? Choisissez l'amour, répond Emmanuel Macron, qui reconnaît que ce couperet est absurde et que cela crée des situations aberrantes pour les personnes en situation de handicap. Donc, on va le bouger, affirme le candidat. Pourtant, l'exécutif s'oppose depuis 2 ans à ces mêmes arguments. Plusieurs propositions de loi soutenues par l'opposition ont été rejetées. La secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, a même dû avoir recours au vote bloqué l'année dernière pour empêcher que cette déconjugalisation soit adoptée à l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, le gouvernement arguait que, comme tout minima, cette allocation est fondée sur la solidarité entre époux. Changer son mode de calcul impliquerait de le faire pour toutes les autres prestations. Ce retournement de situation à 9 jours du second tour ne dupe pas les associations de défense des personnes en situation de handicap, sans rejeter totalement ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Elles attendent plus de détails concrets pour s'en réjouir.
Du côté des universités, journée assez calme pour l'instant. Le petit mouvement d'occupation à la Sorbonne, notamment d'étudiants refusant de choisir entre Macron et Le Pen, ne prend pas d'ampleur pour l'instant. La jeunesse, les étudiants, c'est le thème du comparatif du jour. Les programmes des deux candidats détaillés chaque jour dans ce 13-14. Bonjour Sonia Princet.
Bonjour.
Voyons l'aspect financier d'abord avec vous.
Oui, alors pour les étudiants qui ont un petit boulot à côté de leurs études, Marine Le Pen propose un complément de revenus de 200 à 300 euros par mois, mais uniquement pour les Français et sous condition de réussite aux examens. Emmanuel Macron, lui, veut poursuivre la mise en place du contrat d'engagement jeune pour accompagner les 16-25 ans à trouver une formation ou un emploi en échange d'une allocation de 500 euros par mois. Il annonce une réforme des bourses mais n'a pas donné de détails. La candidate RN promet aussi un chèque formation aux jeunes alternants de 230 à 330 euros par mois. Le président sortant veut rémunérer les stages des lycéens professionnels, stages dont la durée sera augmentée de 50%. Enfin, Marine Le Pen exonérera d'impôts sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans.
Voilà pour les budgets. Voyons ce que proposent les candidats pour les études et les conditions d'études.
Alors, la candidate d'extrême droite veut supprimer Parcoursup, alors qu'Emmanuel Macron préfère rendre la plateforme plus prévisible en donnant des résultats précis sur les années précédentes. Il souhaite ouvrir des places en BTS, BUT et licence professionnelle qui correspondent à des besoins en matière d'emploi. Et au contraire, il veut réguler les filières qui n'ont pas assez de débouchés. S'il est élu, il maintiendra le remboursement des consultations psy pour les étudiants, le pass culture. Il offrira le permis de conduire aux jeunes qui s'engagent dans le SNU. De son côté, Marine Le Pen veut rendre gratuits les transports ferroviaires pour les 18-25 ans aux heures creuses. Elle a l'intention de créer 20 000 logements étudiants par an, des logements réservés aux étudiants français au nom de la priorité nationale.
SNU pour service national universel. Sans question sur la jeunesse, c'était ce que soumettait FranceInter.fr à tous les candidats avant même le premier tour. Vous avez sur notre site internet les réponses des Emmanuel Macron. Macron. Marine Le Pen n'a pas encore répondu. Chez Europe Écologie Les Verts, l'appel aux dons fonctionne. Dimanche, le candidat Yannick Jadot a recueilli moins de 5% des suffrages exprimés. Ses frais de campagne ne seront donc pas remboursés. Le parti a besoin rapidement de 2 millions d'euros. Il avait lancé un appel aux dons dès son discours de dimanche soir. Eh bien, Europe Écologie Les Verts en a déjà reçu 1 200 000. C'est ce qu'annonce son secrétaire général Julien Bayou avec cette formule. Après le vote utile, le chèque utile. Et après la présidentielle, les législatives, cette fois-ci, la gauche va-t-elle parvenir à s'unir? Écoutez ce qu'en dit Julien Bayou ce matin.
Il ne faut pas se voiler la face, il y a des désaccords très importants avec la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, sur la politique étrangère du pays, sur en particulier le rapport à la Russie face à l'impérialisme russe. Et nous disions depuis longtemps que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Ces tentatives de déstabilisation, il fallait une réponse coordonnée de l'Europe. Ça a été qualifié de bêtise, il y a eu des mots qui ont été échangés. Cette page est derrière nous. Nous devons éventuellement construire une discussion pour les législatives. Nous proposons un pacte de non-concurrence. Rencontrons-nous et discutons. Voilà. Mais je pense que si on commence par poser des oukases ou des injonctions, c'est qu'en fait, la France insoumise ne souhaite pas d'accord et qu'elle risque de retomber dans les travers de 2017 où finalement, elle traduit 20% des voix à la présidentielle en 2,5% des députés. Et c'est un échec pour tout le monde. Je crois qu'il y a une possibilité de construire un axe de résistance et d'alternance à l'Assemblée et ça passe par une discussion sans condition préalable.
À propos recueilli par Antoine Gignot, l'inflation a bel et bien augmenté de 4,5% sur un an, confirmation de l'INSEE. Ce matin pour le mois de mars, le rythme s'accélère et cela a une conséquence directe. Le SMIC va de nouveau augmenter. Il grimpe automatiquement dès lors que les prix grimpent d'au moins 2% depuis la précédente revalorisation. Pour le SMIC, ce sera donc plus 2,65% le 1er mai. Il aura pris près de 6% en un an, Laurent Kramer.
Oui, une accélération inédite du SMIC. Il faut remonter à la fin des années 90, au début des années 2000 pour constater ce type d'augmentation. Donc 25 € en octobre, 10 en janvier, une trentaine d'euros, 34 précisément à venir au mois de mai. Le SMIC aura augmenté de 72 € net en une seule année, souligne le ministère du Travail. Augmentation automatique qui n'est pas un coup de pouce gouvernemental, indexé donc sur l'inflation, elle aussi record, on le sait depuis la guerre en Ukraine. La loi prévoit bien une revalorisation annuelle en janvier. Une augmentation mécanique, si nécessaire, en cours d'année, dès qu'elle dépasse, vous l'avez dit, les 2%. C'est ce qui vient de se passer ces 6 derniers mois, entre le mois de novembre et le mois de mars. C'est ce qui pourrait se reproduire d'ici le mois de novembre prochain, vu l'accélération de l'inflation. Le SMIC atteint donc 1302 € net au mois de mai.
Et 1646 € brut toujours au mois de mai. Les mécanismes de l'inflation n'avaient pas de secret pour lui. L'économiste Jean-Paul Fitoussi, longtemps à la tête de l'OFCE et professeur très aimé de ses étudiants à Sciences Po, vient de mourir. Il avait 79 ans. Arrêt sur audience, notre rendez-vous hebdomadaire avec les attentats du 13 novembre. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Bruno.
En direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris avec Romain Lukiens. Chaque semaine avec vous Sophie, nous prenons le temps de vous raconter ce procès qui revient sur l'un des plus grands traumatismes collectifs en France ces dernières années. C'était une semaine importante, c'est celle où le principal accusé Salah Abdeslam a longuement parlé. Que retenez-vous Sophie de ces déclarations ?
Alors d'abord, c'était des déclarations inédites. Jamais Salah Abdeslam ne s'était exprimé clairement sur le soir des attentats. Et pour la première fois, eh bien, il a dit que le soir du 13 novembre 2015, il avait pour mission d'entrer dans un café du 18e arrondissement de Paris et que c'est ce qu'il avait fait après avoir déposé le commando au Stade de France. Il était entré dans ce café, avait commandé une boisson, avait regardé les gens autour de lui, des gens qui dansaient, des jeunes, et qu'alors il avait renoncé à déclencher sa ceinture explosive, qu'il avait ensuite pris sa voiture, qu'il serait tombé en panne, il avait pris un taxi jusqu'à Montrouge où il a déposé dans une poubelle cette ceinture explosive en enlevant le bouton poussoir et la pile, a dit Salah Abdeslam. C'est ma vérité, a-t-il plusieurs fois répété. Je dirais que ça, c'était le temps 1, mercredi. Et puis le lendemain, il a été confronté aux questions des magistrats antiterroristes qui l'ont mis face à ses contradictions, estimant que eh bien ce qu'il venait de déclarer était incompatible en fait avec des éléments incontournables de l'enquête. Et puis, il y a eu une avocate de victime qui lui a demandé ce qu'il avait ressenti ressenti il y a deux semaines, vous savez, quand il y a eu la projection sur grand écran de la scène de crime du Bataclan. Et c'est à ce moment-là que l'ambiance a changé dans la salle d'audience, que Salah Abdeslam a dit, oui, voilà, c'est comme les scènes d'horreur en Ukraine. Bien sûr que ces victimes, en fait, pensent que je suis la cause de tous ces décès. Ces victimes qui, selon lui, sont sorties plus fortes de toutes ces épreuves. Et alors, vraiment, il y a eu un émoi sur les bancs des partis civils lors des déclarations de Salah Abdeslam.
D'ailleurs, alors on a beaucoup parlé de ces déclarations depuis mercredi. Qu'est-ce qu'elles ont suscité chez les victimes et proches de victimes ?
Alors, bah, justement, lors de ces mots, un émoi, en fait, je dirais que, comme il y a eu, Salah Abdeslam a montré plusieurs visages cette semaine, c'est d'ailleurs le cas depuis le début de ce procès. Souvenez-vous qu'au tout début, il s'était revendiqué comme un combattant de l'État islamique, et puis donc ensuite, il avait exercé son droit au silence en disant qu'il voulait pas parler du 13 novembre 2015. Là, cette semaine, il parle, il dit sa vérité, et j'avoue que le premier jour, un certain nombre de partis civils croyaient à ses paroles. Il faut dire qu'il a parlé avec une voix presque douce, et on avait l'impression qu'il y avait une certaine sincérité. Moi-même, j'ai cru mercredi soir qu'il y avait une certaine sincérité, un bloc de vérité, on dit certaines victimes mercredi soir. Et puis hier, c'est vrai que quand il a eu ses paroles en disant même que les victimes avaient acquis des qualités qu'on ne pouvait pas acheter au supermarché, ben là, il y a eu un écœurement et les victimes ont dit qu'il avait montré son vrai visage. Salah Abdeslam, qui est interrogé aujourd'hui pour le troisième jour et qui vient de déclarer que, eh bien, on lui a demandé s'il avait été fier d'avoir renoncé à se faire exploser. Oui, vient-il de déclarer il y a quelques minutes, mais je ne suis pas un héros. Alors, je pense que les victimes sont assez partagées encore aujourd'hui avec ces trois jours d'audience. Le troisième jour vient juste de commencer.
Encore un mot, Sophie, vous nous en aviez déjà parlé dans cette chronique, mais par exemple, lors du premier interrogatoire de Salah Abdeslam mercredi, vous avez vu deux enfants assister à ce procès.
Oui, et j'avoue que cette image était saisissante et poignante parce qu'on voyait ce frère et cette sœur qui avaient moins de 10 ans. Ils étaient avec leur maman, deux petits orphelins du Bataclan avec un cordon rouge de partie civile autour du cou. Et face à Salah Abdeslam dans son box, eh bien, voilà, c'était difficile de ne pas avoir le cœur qui se tord.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Lille de la Cité pour France Inter avec Romain Luquien. Ça reste sur audience, c'est aussi sur les réseaux sociaux le week-end en vidéo. Il y a 3 ans, l'incendie de Notre-Dame, l'anniversaire tombe ce vendredi. Vendredi Saint, je vous en parlais tout à l'heure, jour de la mort du Christ pour les chrétiens. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Vous êtes avec Virginie Lorda sur le parvis de Notre-Dame. Cérémonie ce matin.
Oui, d'abord un temps de prière à l'intérieur de la cathédrale à huis clos, une dizaine de minutes. Cérémonie présidée par l'archevêque Georges Pontier et par le recteur de Notre-Dame, Patrick Chauvet.
Nous étions tournés vers la croix et on était au cœur de la nef. C'est très émouvant d'être au milieu d'une forêt d'échafaudages et de gens qui travaillaient. Voilà, un temps de prière pour confier au Seigneur toutes celles et tous ceux qui souffrent.
Les religieux sont ensuite allés jusqu'au parvis qui, pour la première fois, accueillait un temps de méditation ouvert au public. Quelques dizaines de personnes accompagnées des chants de la maîtrise de Notre-Dame. Cet après-midi, le recueillement laisse place aux politiques. Visite de chantier par Emmanuel Macron.
Et justement, nous sommes 3 ans après l'incendie, donc 2 ans avant l'échéance fixée par Emmanuel Macron pour qu'à nouveau se tienne une messe à Notre-Dame. Où en sont les travaux ?
Alors, après une très longue phase de sécurisation, la restauration a commencé l'automne dernier. Pour l'instant, opération préparatoire, en gros du nettoyage. On s'active aussi hors de Paris, restaurer l'orgue, couper les chaînes, extraire les pierres des carrières. Et puis très bientôt, on va rentrer dans le vif du sujet. Jérémy Patrier-Létus de l'établissement public chargé de la restauration.
À l'intérieur de la cathédrale, on mène en ce moment des opérations préparatoires et dans quelques semaines, les tailleurs de pierre, les restaurateurs, les différents corps de métier qui vont participer à cette aventure collective sans précédent vont prendre leur quartier, comme vous l'avez dit, dans la cathédrale et œuvrer à la restauration du monument. Avec pour objectif de rendre la cathédrale au culte et à la visite en 2024, conformément à l'objectif fixé par le président de la République.
Et pour patienter, les badauds pourront commencer à apercevoir la flèche de Viollet-le-Duc pointée dans le ciel au printemps 2023, dans un an.
C'est bien noté. Merci Delphine Evenou en direct du parvis de Notre-Dame, 3 ans après l'incendie, avec Virginie Lorda pour les moyens techniques. Dans un instant, la météo.
Salut Steph.
Salut.
Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous à l'hôpital ?
Très bien, ils m'ont renouvelé l'ordonnance.
Tu continues avec tes médicaments Mylan ?
Ouais, c'est juste que maintenant ça s'appelle Viatrice.
Ah, et ça te change beaucoup alors ?
Non, ça change rien, mais ça c'est bien.
Mylan devient Viatrice, et nous sommes toujours présents dans la quasi-totalité des pharmacies et des hôpitaux
pour continuer à vous donner accès à des médicaments de qualité. Viatris, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
Alors, notre otage à Acapulco. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de notre otage à Acapulco ? Par exemple, vous, là, qui écoutez la radio sans rien faire, vous savez quelque chose ? C'est une affaire extrêmement délicate, vous savez ? Cruciale, même. Personne ? Bon, bien, parfait. Eh bien, dans ces conditions, je ne vois plus qu'une seule solution. Envoyez Aurel le consul, le héros phénomène de Jean-Christophe Ruffin, régler l'affaire. Notre otage à Acapulco, de Jean-Christophe Ruffin. Il y a des suspens que seul Aurel le consul peut régler, vous savez, un livre Flammarion.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est encore une très belle journée.
Oui, du soleil au menu avec des nuages tout de même qui se développent sur la moitié nord, mais les éclaircies vont rester très belles. Sur les côtes du nord de la Bretagne jusqu'à la Normandie et sur la côte aquitaine, quelques grisailles peuvent résister. Sur le Jura, sur les Pyrénées, on n'est pas à l'abri d'une averse sous les nuages les plus joufflus. Les températures sont très douces, pas moins de 18 degrés à Granville, 19 à Cambrai, 22 à Mulhouse, Paris et Tours cet après-midi, 23 degrés au Sable d'Olonne, à Limoges, à Lyon, 25 à Bordeaux et à Marseille et 27 à Perpignan.
Et ce week-end, peu de changements.
Oui, encore beaucoup de soleil, juste quelques grisailles possibles le matin, un risque d'averse pour les Alpes du Sud. Et puis on va faire mentir le dicton Noël au balcon, pas cotisant, puisque après un hiver plutôt doux, c'est un week-end de Pâques très doux qui s'annonce, avec samedi des valeurs qui sont dignes d'un début juin.
Merci beaucoup Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'est l'un des sites archéologiques les plus connus au monde, Machu Picchu, sommet de la civilisation Inca. Les civilisations andines ont 5000 ans d'histoire. Une exposition événement à partir de demain en présente environ 3000 ans à la Cité de l'Architecture à Paris. Machu Picchu et les trésors du Pérou. Collection exceptionnelle de pièces, céramiques dans un état de conservation impressionnant, parures en or et en argent, vêtements, textiles. Le talent, la passion, les connaissances des scientifiques les font parler pour nous dévoiler une façon de voir le monde. L'exposition fait la part belle aussi aux nouvelles technologies, la vidéo, l'animation, la réalité virtuelle pour nous plonger dans ce monde et le raconter. On y découvre une recherche permanente de l'équilibre dans ces civilisations, ce qui résonne dans le contexte actuel. Machu Picchu et les trésors du Pérou, 01 45 24 7000, l'appli France Inter pour vos questions. Peut-être êtes-vous allé sur le Machu Picchu, racontez-nous. Avec nous jusqu'à 13h45, l'une des commissaires de cette exposition. Bonjour Carole Fraresso.
Bonjour.
Merci d'être dans les studios de France Inter. La première fois que vous êtes allé sur ce site, quand j'ai visité, vous m'avez dit que vous y étiez allé 8 fois. La première fois, quel souvenir ?
La première fois que je suis allée sur le site, j'étais étudiante, je démarrais mon doctorat, donc j'étais jeune. Je suis montée au Machu Picchu à pied, je me suis levée à 3h du matin, j'ai escaladé par la montagne, par les marches, pour arriver jusqu'à l'entrée du site. Et évidemment, le site n'était pas visité comme il l'est aujourd'hui. Donc il y avait une personne avec une petite caisse en métal.
Vous l'aviez pour vous quasiment.
J'ai eu le Machu Picchu, il m'a laissé rentrer, c'était pas l'heure d'ouverture. Et donc j'en garde un souvenir absolument incroyable.
Eh bien, nous avons quelqu'un au bout du fil qui est également allé au Machu Picchu. Bonjour Anne.
Bonjour.
C'était il y a une dizaine d'années. Quel souvenir ?
Oh ben, c'est extraordinaire. Alors, bonjour à tous les auditeurs également. Merci de prendre mon témoignage. Alors, nous y sommes allés il y a 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus très bien, avec mon époux. Et contrairement à certains sites, vous savez, où on voit des reportages, où on lit des récits, on a quelquefois, quand on arrive, on n'a pas l'impression de découvrir quelque chose. Hein. Voilà. Alors, tandis que là, c'était absolument extraordinaire. Vos yeux ne sont pas assez grands parce que c'est tellement vaste. Alors, comme disait la dame précédemment, effectivement, on monte et on descend énormément de marches. Donc, effectivement, faut être en forme physique. Mais alors, on se dit que cette civilisation avait une telle avance. Quand on voit l'organisation du site, la qualité de la construction, parce que ben c'est encore toujours debout et en bon état, quoi. Hein. Alors, je dis aux gens, ceux qui peuvent et qui physiquement peuvent aller voir le Machu Picchu. Là, on n'a pas l'impression d'avoir découvert à travers des reportages. C'est absolument extraordinaire.
C'est bien noté. Merci beaucoup de votre appel, Anne. Carole Fraresso, qu'est-ce qu'il représente pour la civilisation Inca, ce site du Machu Picchu ?
Alors le site de Machu Picchu, c'est une citadelle, hein, oui. Une citadelle perchée au sommet d'une montagne. On est quand même à 2430 mètres d'altitude. Oui. Donc le choix de ce lieu n'est pas anodin. On est au sommet d'une montagne, d'une divinité tutélaire. Et en fait, la topographie du site permet de construire cette citadelle. On a plus de 200 édifices en pierre de granit hein, construites. Et on est entouré par les montagnes, c'est-à-dire les autres divinités tutélaires. Et on est totalement en osmose, en fait, avec l'environnement.
Alors, l'environnement, c'est intéressant parce que l'exposition met notamment en valeur la faune et la flore qui est importante.
Exactement. Ben, nous, lorsqu'on parle des sociétés de l'ancien Pérou, on parle aussi de sociétés agricoles.
Oui.
Et donc, ce sont des sociétés qui dépendent fondamentalement de la nature et des éléments qui les entourent.
Alors, cet empire inca, qui est une des civilisations évoquées dans cette exposition, il a eu une histoire fulgurante. Il a duré quoi ? Moins de 100 ans ?
Un siècle, ouais. Un siècle, 150 ans.
Ouais.
Ça a été bref et à la fois fulgurant, puisqu'on parle d'un développement culturel de 5000 ans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Incas étaient des militaires, étaient des conquérants, et c'était aussi des gestionnaires et de très bons administrateurs.
Alors, les civilisations andines, elles, ont duré beaucoup plus longtemps, 5000 ans, vous racontez 3000 ans dans l'exposition. Quand on parle de civilisation andine, de quoi parle-t-on au-delà du mot Inca qui est connu pour tout le monde? De quelle civilisation parle-t-on?
Il y a différentes sociétés qui se sont développées au Pérou, des sociétés qui se sont succédées, qui ont cohabité. Donc on démarre avec la période formative vers 1250 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, donc en 1532, lorsque les Incas l'Empire Inca s'étend en fait sur tout le vaste territoire, hein, sur plus de 900 000 km². Ces sociétés, elles vont se sédentariser, elles vont se construire en tant que communauté, elles vont se développer comme des États, elles vont développer l'artisanat, elles vont développer l'agriculture, elles vont développer des systèmes hydrauliques ingénieux pour venir puiser l'eau en fait, récupérer l'eau qui arrive des sommets de la cordillère des Andes pour les amener à la côte désertique du Pérou. Elles vont aussi aller puiser l'eau, les Nazca par exemple, qui vivent au sud du Pérou, ils vivent dans un désert, des déserts les plus arides au monde. Et pourtant, ils arrivent à développer des systèmes de puits profonds en forme de spirale empierrée pour aller puiser cette eau de la nappe phréatique pour pouvoir survivre en fait dans ces territoires hostiles.
Alors allons-y pour l'exposition. Je voudrais commencer par deux pièces qui sont au tout début. D'abord un étendard. Alors il se trouve symboliquement qu'il est aux couleurs de l'Ukraine, mais vous l'avez pas choisi pour cette raison-là, même si c'est un heureux hasard. Bleu et jaune qui incarne ce qui revient très souvent dans ces civilisations, la dualité.
Oui, la dualité andine est fortement ancrée au Pérou et aujourd'hui encore, c'est une notion qui parle aux Péruviens. Donc la dualité, en fait, elle s'explique par la rencontre de ces forces opposées qui vont se compléter et elles doivent se rencontrer pour créer quelque chose de nouveau, ce que l'on appelle en langue quechua le tinkui. Mmh. Et le tinkui, par exemple, peut se manifester par la rencontre, l'accouplement d'un homme et d'une femme. On a deux opposés qui se rencontrent et qui vont générer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la vie, un enfant.
Et il y a un magnifique bol cérémoniel, deux feuilles de métal, une en or, une en argent, bol décoré d'une scène mythologique. Là aussi, l'or, l'argent, on retrouve cette notion de dualité.
Toujours. En fait, à travers les matériaux offerts par la nature, ils vont matérialiser leur conception, leur façon de voir le monde, donc l'or et l'argent. Donc l'or est associé à la sueur du soleil, l'argent aux larmes de la lune, telle une épouse ou une sœur. Et en fait, la rencontre de ces deux métaux va créer quelque chose de nouveau. Ce message-là, c'est un message visuel qui est utilisé lors des rituels, des cérémonies, et qui parle à la population.
Épouse ou sœur, disiez-vous, quelle est la place des femmes dans ces civilisations? Qu'est-ce qu'on en sait?
Aujourd'hui, grâce à l'archéologie, nous savons que les femmes avaient une place importante dans les sociétés, notamment au nord du Pérou, la société Mochica. Plusieurs tombes de femmes ont été retrouvées par les archéologues, des tombes richement construites avec des objets de luxe, des parures, mais aussi des symboles de guerre, comme des grandes massues en bois recouvertes de feuilles d'or. Donc on a retrouvé par exemple la tombe de la Dame de Chaos,
au nord du Pérou, et cette dame avait des parures qui sont des symboles de pouvoir, coiffe frontale, massue recouverte d'or, mais aussi de pouvoir politique. Mmh. Donc elles avaient une place dans la société, disons, dans l'élite qui gouvernait ces sociétés.
Machu Picchu, le site a été découvert 1910.
1911,
pardon. C'était des civilisations qui n'avaient pas d'écriture.
Non.
Comment a-t-on travaillé pour les découvrir et comprendre leur vision du monde ?
Mais c'est justement le travail surtout des archéologues, oui. À travers en fait les vestiges matériels que nous retrouvons.
Oui. Et qu'on retrouve encore en quantité importante aujourd'hui encore.
Oui, au Pérou, au Pérou il y a beaucoup à faire encore en termes d'archéologie. C'est un pays qui a eu une histoire tellement riche et tellement diversifiée. Les vestiges matériels que vous retrouvez dans les tombes sont nombreux. Il y a de la céramique, il y a des plumes, il y a du textile, il y a des objets en métal, en or, en argent, en cuivre doré. Les tombes sont bien fournies. On part dans la mort, dans le monde, dans l'au-delà, avec toutes ces affaires, tous les objets qui vont identifier le rôle et l'identité du défunt. Pourquoi ? Parce que dans cet autre monde, il va devoir acquérir une nouvelle identité, voilà, qui est celle de l'ancêtre. Et donc ces objets sont extrêmement créatifs, sont extrêmement réalistes. C'est-à-dire qu'on a des céramiques modelées, peintes, qui vont nous présenter les histoires, c'est des codes visuels, c'est une sorte de communication qui permet de reconnaître certains concepts, ouais, ou certaines visions du monde.
Et pour les pièces les plus exceptionnelles, vous ajoutez dans l'exposition des animations qui permettent d'y avoir accès de manière différente. Il y a un symbole qui arrive dès le début de l'exposition sur une céramique et qu'on retrouve partout, trois petits degrés. Et ça aussi, ça raconte la vision du monde qu'avaient ces civilisations. Qu'est-ce que c'est que ces trois petits degrés ? Et je me souviens de cette cruche, au-dessus, il y a, comment formuler
une volute.
Une volute, merci, cherchais le mot dans mes notes.
Donc, dans l'ancien Pérou, le monde s'organise en trois niveaux. Donc, pour les habitants de l'ancien Pérou, le monde d'en haut est habité par les dieux, les forces célestes, hein, la, oui, pluie, le soleil, le vent, les orages. Et ce monde-là est symbolisé par l'oiseau, qui est cet animal qui a la capacité, la faculté, en fait, d'y accéder. Ensuite, dans le monde d'en bas, vous avez le monde des morts et des ancêtres. C'est-à-dire que les défunts, les morts, vont être enterrés et dans ce monde, ils vont effectuer un voyage où ils vont se transformer en ancêtres. Et ce monde-là, il est symbolisé par le serpent, qui est cet animal qui a la capacité de se faufiler à l'intérieur, dans le monde de dessous.
Et qui est donc valorisé, ce qui n'est pas le cas dans toutes les civilisations.
Qui est valorisé, qui est sacré. L'amaru, d'ailleurs, on l'appelle. Et sur le plan au milieu, entre ces deux plans, il y a le plan terrestre où vivent les hommes et les femmes qui ont leurs activités quotidiennes, qui vont travailler la terre, nettoyer les canaux d'irrigation, et où aussi les rituels et les cérémonies vont avoir lieu de façon cyclique, principalement autour du calendrier agraire, pour pouvoir connecter ces trois mondes, être en connexion avec les dieux ou les ancêtres.
Et là, l'animal, c'est le félin.
C'est l'animal le plus puissant du territoire amazonien. Donc forcément, les leaders, les représentants politico-religieux vont assimiler leur pouvoir à cet animal, ouais, et la volute dont nous parlions, la spirale, qui, ouais, est un symbole que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés anciennes, cette spirale, elle va être permanente, ouais, elle ne s'arrête jamais, elle est constante, et donc elle symbolise
la notion de cycle,
qui se renouvelle de façon pérenne.
Et il faut un équilibre permanent. Question d'Elisabeth, est-ce que cette exposition va voyager dans le territoire ou rester à Paris ?
Malheureusement, cette exposition va rester à Paris.
Mais ce qui est aussi, il faut qu'on parle des conditions de cette exposition. Il y a des pièces réellement exceptionnelles, évidemment très fragiles, et donc c'est compliqué de les faire voyager.
Alors c'est compliqué de les faire voyager, on a 200 objets, ouais, avec une scénographie assez incroyable, on a des vitrines, des structures en fait associées aux objets, pour créer cette immersion en fait. Et ce qui est important de souligner peut-être ici, c'est que vous avez 50 personnes qui ont travaillé pendant un mois au montage de l'exposition. Donc un démontage et un remontage serait compliqué.
Avec des pièces qui n'avaient jamais voyagé ?
La plupart n'ont jamais voyagé. Voilà. 136 objets sont présentés pour la première fois au public français. Mmh. Et 8 objets sortent pour la première fois du Pérou.
Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, beaucoup de ces objets viennent d'une collection particulière.
Oui.
D'un monsieur qui s'appelle Larco.
Oui.
Qui ouvre sa collection au public et aux chercheurs.
la collection du musée Larco de Lima. Donc c'est une collection privée, mais c'est les objets sont tous enregistrés au ministère de la Culture du Pérou. Et cela va faire bientôt un siècle que cette collection est visible et offerte au public, c'est-à-dire que le souhait de Raphaël Larco Oil était que sa collection, qu'il adorait, qu'il a étudiée, sur laquelle il a beaucoup publié, il l'a donné accès aux chercheurs, mais aussi au public national et international.
Un mot de la partie réalité virtuelle de l'exposition. C'est à la toute fin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut voir à la toute fin? Et ce qui est intéressant, c'est que vous, la scientifique, vous disiez, j'y étais un peu hostile au début et puis en fait, j'ai été embarqué. Qu'est-ce qui se passe en réalité virtuelle à la fin de l'exposition?
Aujourd'hui, la technologie nous permet d'amener au public un site monumental qu'il serait impossible de déplacer. Et donc le Machu Picchu est littéralement ici aujourd'hui à Paris et accessible à tous. C'est-à-dire que vous allez littéralement visiter le site, vous êtes en immersion dans le site. Ce qui est intéressant, c'est que le site en plus est totalement vide puisque les drones qui ont fait les images incroyables du site ont été faites pendant la pandémie. Donc le site n'avait jamais été fermé. Et donc je recommande sincèrement cette expérience parce que vous allez vivre le Machu Picchu comme si vous y étiez.
Marie, à propos du Machu Picchu, nous dit c'est pas tant la beauté du site qui est incroyable, mais le choc spirituel, dit-elle, ressenti quand on arrive. Et puis, un dernier mot, il y a la statuette de l'oreille cassée, ou quasiment.
Celle que vous connaissez tous, de Tintin. Oui, en fait, c'est une idole en bois de la culture Chimú qui s'est développée sur la côte nord du Pérou entre 1000 et 1470 après Jésus-Christ. Et donc, ce type d'idole, en fait, accueillait les pèlerins dans la citadelle de Chan Chan.
Vous m'avez piqué le bouquin, du coup j'ai plus le titre en tête, Jean Lebrun, Machu Picchu et les trésors du Pérou, je voulais m'appuyer dessus pour retrouver le titre, merci beaucoup Carole Fraresso d'être venue dans les studios de France, ça commence demain.
Demain.
Voilà, demain à la Cité de l'Architecture à Paris, merci beaucoup, 13h45.
France Inter, le 13-14.
Oui ça arrive, on oublie le titre d'une exposition et on s'appuie sur des petits détails comme ça, bonjour Jean Lebrun.
Je vous trouve très hésitant Bruno.
Le vif de l'histoire, dites-moi quel est le programme?
Abstention, piège à con ou bien élection, piège à con.
À tout à l'heure, c'est dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton de l'entre-deux-tours et la permanence du Parti Socialiste à Roubaix, ambiance assez crépusculaire. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Il y a 100 ans, naissait Bobby Lapointe. Le jour exact, c'est demain, 16 avril. Un admirateur du chanteur et fantaisiste est à votre micro aujourd'hui. Il est écrivain, mais il monte de temps en temps sur scène aussi. En ce moment, la scène du théâtre du Rond-Point à Paris, pour jouer un texte qu'il a lui-même écrit, Barthelby, mon frère. C'est Daniel Pénac.
Le toujours formidable Daniel Pénac, le délicieux Daniel Pénac. Et je lui ai tout d'abord demandé de quand dater sa découverte de Bobby Lapointe.
Alors, quand ai-je découvert Bobby Lapointe? Eh bien, je m'en souviens pas. Autrement dit, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec Bobby Lapointe. Et pourtant, je suis pas un érudit. C'est-à-dire, je connais pas toutes ses chansons. Les quelques-unes que je connais, je les connais pas en entier. Mais elles sont en moi. Si je prends ma douche sur le rythme de la douche, tapa-tapa-tapa-tout-dit, a-ta-doudou. Si vous interviewiez ma fille, elle vous dirait que je lui ai cassé les pieds pendant toute son enfance en chantant finalement toujours les mêmes chansons en bagnole quand on allait en vacances. Et alors évidemment, parmi les chansons, il y avait « Si on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde », etc.
C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Je l'ai apprise à quantité d'enfants, plusieurs centaines. C'est quand je suis invité dans les écoles, dans les classes, et les petites classes, même les grandes d'ailleurs. Je dis, bon allez, maintenant on va chanter une chanson. Si on ne voit pas pleurer les poissons.
Pourquoi celle-ci?
Parce que les gosses font des gestes. Les yeux ronds, les sourcils qui se froncent, le citron qu'on presse. Voilà. Ma fille a découvert la poésie quand il dit...
La maman des poissons, elle est bien gentille.
Elle avait 7-8 ans, comme ça, elle était sur mes épaules. On allait à l'école, et je lui chante ça. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des ribles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. Ah, il dit, mais papa, pourquoi des ribles? Ils sont quoi? Ils sont assis sur des bancs? Ah, tu vois, le banc, c'est un banc. S'asseoir, on peut s'allonger et dormir. Mais t'as aussi, quand les poissons sont en bande, on appelle des bancs de poissons. Et le soir, elle me dit, mais dis donc, papa, les bancs et le banc, là. Mais alors, c'est ça, la poésie. C'est exactement ça, ma chérie.
Bobby Lapointe, c'est du sourire avant toute chose?
Ouais. Ouais. Mais comme tous les grands picoleurs, il y a du tragique derrière, certainement. Et comme le gars se confie pas du tout, on peut absolument pas savoir de quelle nature est ce tragique. Mais il y en a. Il a dû en baver.
Et maintenant, qui se pointe? C'est le gars Bobby Lapointe. Farfelu, rigolo, insolite et costaud.
Quand il arrivait pour ouvrir un concert de Brassens, il était tellement bourré que Brassens disait « Bobby fermera la boutique, hein, il va pas l'ouvrir ». Et Bobby chantait après Brassens. Je l'ai vu 4 fois. En vrai, c'était à un arrêt d'autobus. Et je me suis dit, merde, Bobby. Mon Bobby. Bon, théoriquement, on se précipite et on va se jeter dans les bras de son idole. Mais c'était pas du tout le genre dans les bras duquel on pouvait se jeter. Il attendait ce bus, l'air assez sombre, peut-être bourré. Autant que le bus. Je me suis dit, je vais l'emmerder.
Donc vous ne lui avez pas parlé?
Non, je n'ai pas parlé. Mais j'ai adoré ce gars-là et son travail. Enfin, son travail, ses chansons. Tu le sentais habiter, le gars, quoi.
La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde.
Et est-ce qu'il y a du Bobby Lapointe en vous?
Ben, il y a Bobby Lapointe, il y a lui qui me visite très 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 souvent. C'est comme de la brise, hein, il y a une petite feuille morte de Bobby qui me traverse, puis on est heureux.
La maman des poissons, elle est bien gentille.
La maman des poissons, Bobby Lapointe, c'était donc Frédéric, le choix de Daniel Pénac.
On retrouve au théâtre du Rond-Point dans Barthelby, mon frère. Quant aux 100 ans de la naissance de son idole, ils seront célébrés lors du Printival Bobby Lapointe, la dernière semaine d'avril à Pézenas.
Bon week-end.
À lundi.
Le feuilleton de l'entre-deux-tours, nouvel épisode avec Béatrice Duguay à Roubaix, où le 13-14 était hier. Pour expliquer l'abstention, 41% dans la ville dimanche dernier, l'un de nos invités soulignait à quel point le réseau militant qui maillait naguère le territoire a largement disparu. Illustration auprès d'un parti grand perdant du premier tour, parti socialiste tellement puissant dans le Nord il y a quelques années. À Roubaix, dimanche dernier, Anne Hidalgo a recueilli moins de 1% des suffrages exprimés. Béatrice est allée au local historique du PS à Roubaix, ambiance assez crépusculaire.
Plein de photos.
Voilà, la figure historique de Roubaix, hein, Jean-Baptiste Lebas.
Photos de Mitterrand.
Il y a quelques affiches qui ont été enlevées. De mémoire, Ségolène Royal, on l'a caché. Benoît Hamon est descendu. Thierry Catry, je suis infirmier sur Roubaix depuis 40 ans, en carte OPS depuis, je dirais, 95-96.
Combien vous êtes de militants à jour de cotisation à Roubaix aujourd'hui?
Alors, fin d'année dernière, on devait être à peu près 35.
Et aux grandes heures?
Moi, j'ai connu un PS Roubaix à 250, encore auparavant plus de 1000.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une grande majorité d'électeurs socialistes qui ont, comment dire, fait le vote utile avec Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est un vote sanction, c'est un vote de contestation, plutôt qu'un vote d'adhésion.
Est-ce que dans vos collègues militants du Parti Socialiste, il y en a qui ont voté utile, qui vous l'ont dit?
Dans mes collègues, je ne sais pas, mais je sais qu'hier, il y avait Conseil fédéral à Lille, et un élu de Ronchin a dit qu'il avait voté pour Jean-Luc Mélenchon. Il s'est fait un peu huer. Parmi mon entourage, les socialistes, pour moi, ont voté Anne Hidalgo.
Tonino, mon prénom, Maquet, M-A-C-Q-E-T. Donc je suis secrétaire de la section du Parti Socialiste de Roubaix.
Qu'est-ce que c'est le militantisme aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire que ça existe à l'heure des campagnes sur Internet, par exemple, ou sur les réseaux sociaux ?
Oui, parce qu'il y a encore dans cette ville un véritable militantisme qui est d'abord associatif, dans la culture, dans le sport, dans la vie sociale, dans les quartiers, etc. Certains de ces militants se retrouvent dans des formations politiques, ce qui est mon cas depuis pas mal d'années. Alors, faut quand même admettre qu'aujourd'hui, ça fait plus rêver. On a relativement peu de gens qui sont investis dans les partis politiques par rapport à ce qui existait il y a 20, 30 ans. Mais le militantisme existe, même si... Malheureusement, je déplore qu'aujourd'hui, dans les quartiers qui sont un peu désocialisés, on sent quand même une nette baisse de fréquentation des associations, du moins en tant que bénévole. On a du mal à trouver des trésoriers, des présidents, etc. Quand on n'a pas les moyens de subvenir à son existence, quand on n'a pas les moyens de nourrir correctement sa famille, quand on ne peut plus se remettre de loisirs, etc., aller voter, ça paraît aujourd'hui un luxe et on a l'impression que ça ne sert plus à rien. Encore heureux aujourd'hui qu'on ait les réseaux sociaux, ça permet quand même d'établir encore des contacts avec la population. Et on se rend compte sur les sites politiques que finalement, il y a quand même une fréquentation et il y a des échanges sur Twitter, etc. Ça bouge bien.
Est-ce que ce qui vous arrive au PS ici, en l'occurrence à Roubaix et ailleurs, est-ce que ça arrive à d'autres partis traditionnels ? Est-ce que voilà, il y a le même manque de militants par rapport à un certain nombre d'années ?
Complètement. On a un local ici à 10 mètres qui est celui du Parti communiste, avec lequel on entretient des relations amicales. Il y a une défection. On prend les Républicains, il y a une défection. On prend les Verts, il y a une défection. Je pense effectivement c'est général. Les partis qui échappent un peu à ça aujourd'hui sont les Insoumis, parce que là, effectivement, ils ont un peu le vent en poupe, et donc il y a peut-être plus de jeunes qui sont attirés vers ce mouvement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a énormément de militants politiques aujourd'hui, donc c'est général, ce n'est pas propre au Parti Socialiste.
Même au Rassemblement National ?
Ils ont quand même du mal à coller, etc., on ne les voit pas, alors voilà, ils sont très cachés. J'ai pas l'impression qu'il y ait des militants du Rassemblement National à Roubaix.
Et le feuilleton de l'entre-deux-tours, par définition, eh bien, il se prolongera lundi prochain. Réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Un mouvement de contestation limité touche quelques universités. Journée plutôt calme sur ce front. Ce sont des étudiants qui refusent de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cela fait écho au taux d'abstention de dimanche dernier et aux questions sur celui du 24 avril prochain. Et ça rappelle aussi le slogan de mai 68. Élection, piège à con, Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Il fut un temps pas si lointain où l'abstention était présentée comme un signal de la révolution à venir.
Ben, peu après le cyclone de 68 que vous citiez, en avril 69, un chêne s'abattait, le général de Gaulle perdait son référendum. Un petit parti qui avait joué un grand rôle dans la lutte contre la guerre d'Algérie et qui se disait révolutionnaire, choisissait de ne pas prendre part au scrutin. Le PSU, son secrétaire général, le jeune Michel Rocard, ne voulait pas se fondre parmi les caciques de la gauche qui disaient non et qu'il jugeait dépassé. Il a prôné l'abstention. Ce qu'il fera de nouveau au deuxième tour de la présidentielle qui suit, à laquelle il s'est présenté. Premier tour 69, Georges Pompidou, successeur naturel du général, a dépassé le président centriste du Sénat, Alain Poher. Le socialiste Gaston Defferre est très loin en arrière. Vous voyez, 5%, le pire score de l'histoire du parti. Enfin, jusque-là. Le socialiste désiste pour Poher. Et le troisième homme de l'élection, c'est le communiste Jacques Duclos. Il a le talent oratoire de Mélenchon, avec en plus l'accent de Jean Lassalle, vous voyez, l'effet. Alors, il fronde de très peu la qualification. Que va-t-il recommander à son électorat ? Titre de Libé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec 22% ?
Eh ben, Duclos répond l'abstention.
Mais révolutionnaire, comme le regrettait Alain Krivin, qui a fait alors ses premières armes de candidat trotskiste, innovatrice, comme Rocard, non. Jacques Duclos va la jouer paysan madré. La bourgeoisie ne met jamais ses œufs dans le même panier. Elle fait croire que Pompidou et Poher sont différents, mais pour nous, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. On ne va tout de même pas se laisser rouler dans la farine. On ne va pas aller aux urnes. Résultat, l'abstention bondit de 10%, ou... On vote blanc et nul, 6,3% des suffrages au second tour.
Et ce second tour de 69 garde le record d'abstention à la présidentielle qui était de 31%. Plus d'une génération plus tard, un livre paru en France 2006, un auteur d'extrême gauche, le prix Nobel de littérature portugais José Saramago, il défendra l'abstention et le bulletin blanc comme des signes de lucidité.
C'est le titre qu'il donne à un de ses romans, Une ville imaginaire dont les habitants sont furieux contre leurs dirigeants et aussi contre leurs opposants. Ils ne se rendent pas au premier tour. Au second, ils votent massivement blanc et ainsi de suite jusqu'à ce que les chefs humiliés s'enfuient nuitamment de la ville. On va dire que c'est l'abstention artiste. Vous voyez le genre Xavier Beauvois qui brûle sa carte électorale comme Gainsbourg a brûlé un billet de 500 à la télé. Mais enfin, pour beaucoup, ce sont des biens précieux dont ils disposent rarement.
À la présidentielle de 2002, la majorité des Français n'a pas entendu cette leçon de révolution.
Lorsque Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le second tour, la gauche de la gauche elle-même, Arlette Laguiller, ne reprend pas la formule blanc-bonnet-bonnet-blanc. Olivier Besancenot déclare qu'aucune voix ne doit se porter sur l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon vote Chirac avec des gants aux mains et une pince sur le nez. Qui se mette plutôt une casserole sur la tête, rétorque Le Pen. En 2002, l'essentiel de l'extrême gauche a abandonné cette formule bonnet-blanc-blanc-bonnet. Trop dangereuse à terme. Alors, que chacun savait que Chirac serait élu haut la main, l'abstention a diminué de 10 points entre les deux tours. Rejetée qu'elle était par des manifestations innombrables, ils étaient peut-être 1 million le 1er mai 2002 à penser abstention piège à con.
Intelligence Service demain.
Marguerite Duras.
C'est noté, à demain à 18h, Jean Lebrun et la Terre au carré juste après le flash. Il sera question de New Delhi, la ville la plus polluée au monde.